Bac FM, il est 18h30. Jusqu'à dimanche, à la Charité sur Loire a lieu une nouvelle édition du festival aux quatre coins du mot. Et jusqu'à samedi, eh bien, je vous propose un rendez-vous avec un intervenant du festival générique. Bonjour Mishka.
Bonjour à vous.
Merci d'accepter mon invitation sur Bac FM à l'occasion eh bien, de ces entretiens qui concernent le festival aux quatre coins du mot à la Charité-sur-Loire. Alors on vous retrouve, vous d'ailleurs, demain, c'est à 14h30 pour un échange, une conversation avec le public qui sera présent, mais avec également les deux autres personnes qui vous accompagnent sur scène. Parole de fan, voilà, ça c'est le nom de cette conversation qui est proposée dans cette programmation, qui est très punk hein, d'ailleurs cette année du festival. Vous avez jeté un petit coup d'œil sur la programmation ou pas?
Écoutez, pas encore, malheureusement, je suis un peu débordé, mais enfin, j'aurai comme ça j'aurai la fraîcheur de découvrir ça le moment venu.
Ouais, sur le moment, exactement. Vous êtes journaliste radio, on vous retrouve sur France Inter, vous produisez l'émission qui s'appelle Very Good Trip, qui s'est déclinée en livre récemment. On va revenir dessus, bien sûr, dans quelques instants, car c'est un petit peu un des maillons de cette conversation, Parole de fan. Et puis ce qui vous lie aussi avec Maud Berthomier, qui fait partie de ce plateau jeudi. Parole de fan, déjà, quel fan vous êtes, vous?
Alors, je suis pas forcément très à l'aise avec le mot de fan, qui a un côté un peu infantile, de quelqu'un qui cherche à connaître la vie privée des stars ou je ne sais quoi, qui s'identifie.
Enfin, à la closer, ouais.
Je suis plus un amateur, un admirateur, un amoureux, un passionné, un obsessionnel. Donc, c'est plus
un historien
fan,
aussi, un
fanatique,
un
vous voyez. Donc. Fan club, fanatique, enfin c'est quand même un petit peu exagéré quoi. Je suis certainement passionné, oui. Et puis il y a des gens que j'adore, ça c'est sûr, parce qu'il y a une relation qui peut être en effet très affective avec les musiciens, ça c'est certain.
Et justement, être, bon, alors on va pas dire fan du coup, on va dire passionné. Être passionné, est-ce que c'est forcément avoir une histoire très personnelle avec, là, la musique en l'occurrence, mais ça peut être le cinéma si on est un passionné,
oui,
de cinéma et d'autres choses.
Bah, de toute façon, je suis pas le seul. Je pense que tous les gens qui ont vu une partie de leur vie transformée par la découverte, comme vous disiez, d'un film, d'un livre, d'une musique en l'occurrence, peuvent en témoigner. C'est-à-dire qu'ils tissent un lien très intime avec quelque chose qui appartient à l'ensemble du public, et ils ont l'impression qu'il y a une relation exclusive, aussi paradoxal que ça puisse paraître, qui se tisse entre eux-mêmes et cette œuvre qui est disponible à tous.
Ouais,
vous voyez, c'est pour ça que la critique existe, c'est pour ça qu'il y a des livres qui sont écrits sur des cinéastes, sur des groupes, c'est pour ça que tout un pan de la littérature journalistique existe. Hein.
Et c'est ce que vous en connaissez d'ailleurs quelque chose, parce que vous avez écrit de nombreux livres d'ailleurs.
Oui.
C'est ce que vous allez exprimer sur scène, ça, jeudi, cette relation qu'on peut avoir avec la musique, avec un certain attachement à un album.
Oui, c'est-à-dire que c'est plus, peut-être au-delà de ça, c'est peut-être aussi la façon dont la découverte de certaines musiques, de certains artistes à divers moments de votre vie a fait de vous la personne que vous êtes. C'est-à-dire que c'est comme des rencontres avec des gens vivants. De toute façon, les œuvres sont vivantes. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun peut dire, à 15 ans, j'ai eu un ami qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a fait découvrir certaines choses, avec qui j'ai partagé des expériences, je ne sais pas, des voyages, on a fait de l'escalade ensemble, vous voyez, on est allé à un festival de techno, et donc on a comme ça des bornes dans sa vie, et ça peut être des personnes vivantes, ça peut être réduit à votre entourage privé, intime, mais ça peut aussi être des rencontres avec des musiques, oui, avec des œuvres en général, qui prennent une importance peut-être plus grande encore que des amis. C'est comme des amis qui ne sont pas dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, mais ce sont des amis qui comptent parfois plus que les vrais. Vous voyez, sur qui vous vous reposez quand vous êtes malheureux, à qui vous êtes heureux, vous avez envie d'écouter tel truc parce que ça vous rend encore plus heureux. Ouais. Vous voyez, ce sont des gens qui vous aident à être davantage vous-même, au fond.
Avec des styles relativement différents selon l'humeur que l'on a et dans quel mood on est, si on peut dire maintenant.
Exactement. Et puis, oui, parce que chaque vie passe par différentes couleurs. Enfin, y a des variations et puis il y a aussi des évolutions. C'est-à-dire que ce qui compte pour vous à 15 ans ou à 20 ans, ce n'est pas forcément ce qui va compter pour vous à 40 ou à 50. Donc, compte tenu de la vie que vous avez menée, des choix que vous avez faits, des épreuves ou des joies que la vie vous a réservées, vous voyez, il y a toujours une évolution, une courbe pour chaque personne.
Et ce que vous évoquez d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans Very Good Trip, votre dernier ouvrage. On va le retrouver jeudi aussi. Vous allez en parler sur cette scène que vous partagez avec Frédéric Lemaître, avec Maud Berthomier également. Alors, la présence de Maud Berthomier, elle n'est pas anodine parce qu'elle vous accompagne depuis le début aussi sur cet ouvrage. Elle en est même l'initiatrice un petit peu de cet ouvrage.
Pas exactement. C'est-à-dire que l'initiateur, c'est l'éditeur, Guy Messina, et qui cherchait à faire un livre dérivé de l'émission, et j'ai eu l'idée de faire un livre tel que on n'en avait pas encore fait, c'est-à-dire un livre qui n'est pas une compilation des 100 albums qu'il faut avoir écoutés, des 500 chansons qui ont changé l'histoire du monde, ou je ne sais quoi, vous voyez, des listes, et dire, ben en fait, on va prendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va partir d'une vie qui est la mienne, qui est une vie comme une autre, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui est la vie d'un fan, si vous voulez, on peut reprendre le mot, ou alors, comme je dirais, plus oui, d'un passionné, d'un observateur passionné, et montrer en quoi il y a justement une interaction entre ces musiques qui ont compté pour moi et les choses qui ont guidé ma vie sur d'autres plans, professionnels, affectifs, et parce qu'au fond, chaque amateur de musique a son propre chemin. Et il lui arrive souvent de découvrir certaines musiques à un certain âge et de se rendre compte 10, 15 ou 20 ans après que finalement, peut-être que c'était pas si important que ça, qu'il y a d'autres musiques qui ont en fait ont signifié bien plus pour lui plus tard. On passe son temps à faire des réévaluations un peu par rapport à ce qu'on aime. Et puis avec le temps, il y a des choses qui vraiment apparaissent comme plus importantes que d'autres. Et on n'en a pas forcément la conscience sans le recul des années. Et donc, l'éditeur voulait que je fasse un livre, donc j'ai suggéré un livre de nature intime et personnelle. Et puis j'ai trouvé que le genre, le cadre de la conversation permettait peut-être de rendre ça plus naturel, vivant, quoi, moins professoral, moins journalistique, enfin. Et donc je suis très heureux de la forme que ça a prise parce que Maud a été très 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 attentive à donner une sorte d'une orientation comme ça très très claire à ses entretiens, à les encadrer, les thématiser, etc. Et elle a repris la matière, elle a transformé des propos comme ça spontanés en quelque chose qui semble vraiment plus organisé. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé de procéder et je suis assez content du résultat.
Ça a été compliqué de faire le pont entre l'émission de radio où vous vous livrez déjà un petit peu et un livre.
L'émission de radio, je ne m'y livre pas du tout comme dans le livre, c'est-à-dire que je fais quelques remarques incidentes de temps en temps, il y a un souvenir qui me revient.
À un degré différent, bien sûr.
Ouais, j'essaie d'éclairer. le trajet d'un groupe en y mêlant certaines impressions personnelles parce que j'ai accompagné la carrière de ce groupe, enfin comme observateur, donc j'ai des choses et des souvenirs, mais là c'est différent, c'est-à-dire que là je parle de choses bien plus que je vais jamais, dont je vais jamais parler à la radio parce que c'est pas le lieu pour le faire, enfin quand je parle de mon frère, de ma famille, de mes voyages, enfin bon, je pense pas que ce soit vraiment
quelque chose
que je vais raconter à la radio.
Il y a ce côté historien de la musique que vous avez plus en radio qui se perd un petit peu plus dans le livre parce que vous amenez plus le vous, en fait, le Mishka,
Le vécu, bien sûr, Oui, c'est l'idée de... Vous savez, on s'est référé au début, je crois que Maud l'écrit dans sa préface, à un livre d'Annie Ernaux qui s'appelle « Les années ». Où, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle met justement en regard les grands courants collectifs qui ont traversé la société française, je sais pas, la découverte des loisirs, les voyages, la consommation, etc., avec sa propre vie, c'est-à-dire sa vie de femme, son mariage, la naissance de ses enfants, son métier, les villes où elle a vécu, etc. Vous voyez, enfin, et je trouve que j'aime bien cette façon de lier l'intime et le collectif. Parce que finalement, tout le monde peut faire le livre que j'ai fait. Tout le monde peut raconter sa propre expérience intérieure en la rapportant à des choses, des expériences collectives.
Mais on verra d'ailleurs qu'à travers ce livre, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans ces 300 chansons qui ont marqué votre vie et les différentes étapes aussi que vous avez connues à travers ces chansons de 1963 à 2022. Comment, en quelques mots, la musique justement vous a accompagné durant toutes ces années?
De bien des façons, pas toujours d'une manière, pas en tant que professionnel toujours, puisque ça commence très 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 tôt, à un moment où j'étais un petit enfant et où j'étais très conscient, d'une manière évidemment que j'aurais pas su exprimer, mais que la musique était quelque chose qui me happait, qui m'obsédait, qui presque avait un caractère sacré pour moi, étrange et aussi ça m'obsédait, donc j'essaye de rendre ces impressions. J'ai eu une phase où j'étais jeune critique, où je défendais avec ardeur un certain courant dans la musique, qui n'était pas forcément majoritaire. C'était une époque où il y avait beaucoup de sectarisme dans les goûts des jeunes pour la musique, quoi, dans les années, début des années 80. Qu'on ne pouvait pas aimer à la fois Joy Division et Black Sabbath, quoi, par exemple. C'était impossible, bon. Donc, il fallait faire des choix, enfin bon. Donc, c'était une période assez intransigeante, intolérante, tout ça. Et puis après, je suis un peu revenu de tout ça, je suis devenu historien de la musique, et ça a modifié les choses, ça a modifié mon approche. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens ça s'est fait, c'est que la vie a fait que je suis éloigné de certaines musiques et que j'en ai trouvé d'autres, quoi.
Est-ce que c'est aussi ce livre l'opportunité de livrer quelques anecdotes sur justement votre vie professionnelle dans la musique?
Oui, aussi. Alors ça, je sais pas si ça passionne tout le monde, mais j'ai voulu aussi raconter un peu ce qu'a été l'évolution de la presse rock en France, dans quelles conditions on y travaillait, le fait que justement c'était pas une activité très que je considérais comme totalement professionnel, quoi. Il y avait un côté un peu amateur, justement, dans le bon sens du terme.
Cette critique aussi, cet aspect de la critique rock, elle doit parler beaucoup à Maud Berthommier, parce qu'elle a écrit, elle, une thèse sur la naissance de la critique rock aux États-Unis.
Ah, mais tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai suggéré que ce soit elle qui le fasse, parce que je trouve qu'elle avait une approche extrêmement pertinente et bien orientée de tout ça, c'est-à-dire qu'elle a posé des questions vraiment très 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 intéressantes à ces critiques qui sont un peu les pères fondateurs de la critique rock américaine, et elle avait une manière de mettre en scène ses rencontres avec eux, de planter le décor, de raconter ses propres impressions, et je trouvais qu'elle donnait à ça une incarnation qui était précieuse, et ça m'a vraiment convaincu que c'était la bonne personne pour faire ça.
On parle d'anecdotes dans ce livre aussi, quelques anecdotes. J'aimerais juste revenir sur une anecdote que j'ai trouvée en faisant mes petites recherches. C'est une aventure qui vous est arrivée en 2016 quand vous êtes allé à Los Angeles.
Oui.
Vous êtes allé interviewer Neil Young.
Ah oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle très bien. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est un souvenir assez marquant parce que c'est tout à cafouiller dans cette rencontre. J'ai fait ça pour France Inter. Je suis parti donc avec un magnétophone, un appareil enregistreur. On ne dit plus magnétophone maintenant. C'était déjà dès le début, c'était compliqué parce qu'il n'était pas très aimable et que il voulait pas que je lui mette un micro sous le nez. Donc il a pris une cage de sorte de cage de hockey en fait pour enfants, enfin un truc qu'il a posé sur le flanc et il a fait un bricolage pour que le micro pende. Enfin bon, ça n'a pas beaucoup d'importance tout ça, mais enfin en tout cas son manager son équipe ont donné une sorte de pas, c'est pas un truc MP3 mais enfin un lecteur de musique dont il avait parrainé le brevet, enfin le pono, et c'était un truc qui était censé révolutionner le son audio des baladeurs. Et en fait, ils n'avaient pas fait les bons réglages, donc j'avais entendu son album avec un son complètement défroid, avec des parasites et tout. Donc j'ai commencé à lui faire une interview en lui disant « Mais c'est incroyable, c'est un disque complètement expérimental avec des bruits bizarres, c'est quand même très audacieux. » Et puis il m'a regardé avec des yeux ronds, « Attendez,
c'est pas du tout ce que j'ai fait. »
Une erreur. Il a fait des réglages, il dit « Bon, c'est pas grave, on va se retrouver tout à l'heure. » Et là, j'ai fait une autre interview qui était bien plus intéressante parce que il m'a donné rendez-vous au bord d'une falaise. Enfin, c'est totalement improbable. C'est très, très cinématographique. Et on a parlé face à l'océan. Et en fait, il était assez marrant. Il y a une émission spéciale qu'on a consacrée à ça. Ouais.
Mais justement, une anecdote comme ça, ça construit aussi certaines légendes de la musique. Ça fait partie des personnages aussi qu'on admire.
Oui, sans doute. Vous savez, c'est ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est que pourquoi est-ce que je voulais interviewer des groupes, des chanteurs, etc. C'était pas, je sais pas comment dire, pour faire un métier. C'est parce que j'avais l'impression qu'ils en savaient plus que moi dans certains domaines, qu'ils avaient un accès à une sorte de connaissances poétiques. Enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas qu'ils avaient, oui, une sorte d'initiation, c'est côté initiatique, et j'ai eu ça avec Bono aussi, avec qui je suis resté lié. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, il y a quelque chose d'un peu mystique là-dedans, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des gens qui sont un peu au-dessus des autres, pas en tant que Martin Luther King ou Gandhi, quoi. C'est pas des gens exceptionnels dans ce sens-là, mais ce sont des gens qui savent faire vibrer certaines cordes.
Et qui au même titre qu'eux, ont pu changer la vie des gens quand même à travers
c'est
leur
ça,
musique.
Qui peuvent vous exalter, vous donner envie d'avoir une vie plus intense. Enfin, je ne sais pas, de vous entraîner à vivre des choses que d'existence plus normale ne vous permettrait pas de vivre. Donc on cherche toujours l'exceptionnel, et ce sont des gens qui ont été un peu des guides, des espèces de d'initiateurs, c'est ça, et dont on attend qu'ils vous révèlent un peu leurs secrets, et on a l'impression que tout ce qui touche à votre rencontre avec eux a quelque chose d'un peu magique. En fait, on cherche une forme de magie. Et dans le cas de Neil Young, ça a été une expérience un peu mitigée, mais très très intrigante, parce que il y avait presque un côté sorcier, mage, un peu maléfique à certains moments chez lui. Donc je pense qu'il y a du jeu aussi dans tout ça, c'est qu'on s'amuse.
Sûr. C'est un rôle, bien sûr.
Chacun joue un rôle. C'est un petit théâtre qu'on improvise quand on rencontre à quelqu'un comme ça. Et j'adore ces moments-là. C'est pour ça que je fais ça.
Et c'est ce que vous communiquerez évidemment sur scène demain à l'occasion donc de cette conversation Parole de fan avec Maud Berthommier, Frédéric Lemaître. Vous allez évoquer votre livre Very Good Trip. Vous dites que c'est celui de la génération d'après-après-guerre. Pas tout à fait celle des boomers, c'est pas celle non plus de la génération sacrifiée qui ont suivi, c'est plutôt celle qui s'est glissée dans l'interstice, les derniers à profiter de l'euphorie et de l'optimisme ambiant, mais aussi les premiers à percevoir que quelque chose était en train de se dégrader très vite autour d'eux. Est-ce que c'est aussi un livre nostalgique ?
Bon, on est toujours plus ou moins nostalgique de sa jeunesse, parce qu'on réfléchit et on se dit « j'aurais
c'était mieux avant ».
j'aurais pu faire ça. C'est plus du, parfois on a des regrets, parce que de la nostalgie, c'est-à-dire qu'on regrette de pas avoir profité davantage, on regrette d'avoir eu certaines limites, de pas, c'est plus des occasions perdues, quoi. C'est ce qui ne reviendra plus. Mais nostalgique, je pense pas que l'époque, enfin, si la nostalgie, par nostalgie, on entend, l'idée que le passé était meilleur, je dirais pas qu'il était meilleur. Je pense pas du tout. Je pense que l'époque, toute époque a ses qualités, ses défauts. Aujourd'hui, on a tendance à voir tout en noir. Ça me semble très exagéré. Donc, si on rapporte à ce qui se passait il y a 40 ans, il y a des choses qui sont mille fois meilleures. Donc bon, je suis pas nostalgique de certaines choses que je détestais à l'époque et que je déteste encore. Donc bon, c'est ça. Non, non, je regrette de plus être aussi jeune. Ça, c'est ça la question que vous me posez.
Mais alors, c'est quoi qui se dégrade autour?
Maintenant, aujourd'hui.
Est-ce que c'est la musique?
Non, là, pas du tout. Je trouve que la musique est excellente. Non. Non, je dirais que c'est une absence. Je pense que le cynisme règne partout. C'est ça qui me fait peur, c'est que il y a plus de naïveté. Si vous êtes naïf, vous êtes un crétin. Enfin, c'est horrible, quoi. Il y a beaucoup trop de calculs. Il y a un manque d'esprit d'enfance, quoi. Enfin, c'est ça que je trouve navrant. Enfin, tout est professionnalisé, tout est balisé. Il y a plus beaucoup de place pour l'aventure, quoi. C'est ça que je trouve dommage.
Est-ce que musicalement, vous vous retrouvez justement dans la musique de maintenant, Mishka Sayar?
Oui, dans le sens où la musique est un langage aujourd'hui très universel et très partagé. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de jeunes font de la musique, ce qui n'était pas forcément le cas à mon époque, où c'était vraiment une catégorie à part, les gens qui faisaient de la musique. Donc, je trouve que ça s'est beaucoup démocratisé, beaucoup répandu, et que la musique joue un rôle absolument central dans nos vies, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans, où on était quand même un peu des marginaux à s'intéresser à tout ça. À considérer que c'était plus important que le reste, je veux dire. Aujourd'hui, tout le monde l'accepte que c'est plus important que le reste, ou aussi important que le reste.
Et même si une certaine mode d'avant revient encore, à l'image des vinyles, par exemple, qui reviennent beaucoup maintenant.
Donc toute cette période, en fait, elle n'est pas morte.
Ouais.
Elle est toujours vivante, plus que jamais, je dirais. Non, c'est peut-être qu'il y a un certain esprit d'émerveillement, une naïveté, une attente de la musique, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui c'est de la consommation instantanée. Le problème aujourd'hui, c'est que il se passe plein de trucs géniaux, mais on ne sait pas mais il en reste rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui reste, quoi. Il y a des trucs, il y a des événements, tout le monde s'excite et puis après tout le monde l'a oublié. Donc c'est ça le problème aussi, c'est qu'à l'époque on avait peut-être le temps d'attendre les choses, on d'y rêver, de les chercher, de les imaginer, et aujourd'hui c'est l'instantanéité. Ça, je trouve que ça peut-être on est à une époque où la musique a moins de charme. C'est peut-être un peu ça, c'est plus banal. C'est ça le problème un peu.
Il y a quelque chose qui m'étonne, Mishka Sayar, vous êtes le monsieur musique de France Inter. On peut le dire. France Inter est partenaire du festival Le Printemps de Bourges, qui se passe à 1h de Nevers, et je ne vous ai pas vu là-bas cette année.
Vous savez, comme on dit, cordonnier le plus mal chaussé, c'est que moi j'ai des émissions à faire tous les soirs, et si je vais à Bourges, c'est qu'on me demande d'y aller pour une retransmission en direct, je ne sais pas quoi. Donc là, vu la programmation, je pense qu'ils ont, je ne sais pas qui y est allé d'ailleurs pour Inter, donc moi, j'étais pas prévu dans le dispositif.
Vous avez rapport avec ce festival ?
Oh oui, j'y suis allé deux fois. J'adore Bourges. Je trouve que les conditions pour écouter de la musique sont idéales. Enfin, les différents lieux, la ville, l'ambiance. Ah non, moi j'ai toujours adoré Printemps de Bourges. J'y suis allé pour la première fois, je crois que c'était en 2010, un truc comme ça. J'ai adoré.
Et d'ailleurs, ils ont reçu une des plus belles scènes rock du moment, c'est Chaka Ponk, cette année.
C'est vrai,
un très très beau concert qui pourrait très bien rentrer dans le thème d'ailleurs de ce festival aux quatre coins du monde. Je retombe sur mes pattes. Décibel Rebelle, c'est le nom de cette nouvelle édition. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Décibel Rebelle?
Oh, c'est une formule commune. Ça arrive, non, bon, ça m'évoque rien de spécial. C'est des jeux de mots qui valent ce qui valent. Oui, la rébellion, j'ai pas tellement j'aime pas trop ce mot, je trouve qu'il a été tellement galvaudé, enfin. Vous savez, n'est pas toujours rebelle celui qu'on croit. C'est pas, oui, c'est souvent la rébellion. C'est un truc de consommation maintenant. Je veux dire, c'est on consomme de la rébellion. C'est un produit comme un autre, quoi. C'est pas.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, jeudi, de cette conversation avec Maud Berthomi, avec Frédéric Lemaître, avec le public qui sera présent? Quelles sont, vous, vos attentes?
Ah, ben, moi, c'est souvent les questions que j'attends. C'est souvent les... C'est toujours inattendu ce que les gens vont me dire. Puis j'aime bien... Bah, comme vous avez parlé de Niliang, j'attends toujours de voir de quoi on va me parler, de qu'est-ce qui rend les gens curieux. C'est jamais la même chose. Puis, je sais pas, je trouve que la. Enfin, souvent, la musique, c'est ce qui fait ressortir le meilleur chez les gens. Souvent, les hommes. Moins les femmes parlent plus facilement de leurs affects, mais souvent, les hommes sont plus pudiques et la musique leur permet d'être plus affectifs.
Ouais, de se dévoiler plus,
ouais. Oui, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et puis, je sais pas, je suis toujours heureux quand les gens me disent que grâce à mon émission, ils ont découvert quelque chose. Ou que, inversement, ils me parlent de quelque chose que je ne connais pas. Ils me disent, ben, tu devrais ou vous devriez écouter ça parce que vraiment, on peut pas passer à côté. Pour une prochaine émission, il faut y penser, etc. Souvent, je le note et ça, c'est des petites graines qui peuvent germer, quoi. Mais de toute façon, la musique, c'est un moment de partage. C'est ça que j'adore, c'est partager des choses. Quand je fais de la radio, vous savez, je suis tout seul derrière ma vitre. Et le fait d'être écouté, c'est certain, c'est une réalité, mais ça reste virtuel parce que je ne vois pas la tête des gens. Là, quand je parle devant un public, c'est autre chose parce que je vois les visages, je vois les yeux, je vois l'attention. J'ai un côté comme un comédien sur une scène, quoi. C'est intimidant parce qu'au début j'ai du mal, j'ai pas l'habitude, donc ça peut me glacer un peu, ça peut pas me glacer, mais disons m'inhiber. Parce que je suis intimidé, mais au bout d'un moment, la glace se brise et j'arrive à être naturel et à créer vraiment un échange très chaleureux.
Alors justement, voilà. Vous parlez beaucoup de partage. Pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous pourriez nous partager à nous, auditeurs de Bac FM, pour conclure cette émission, une petite pause musicale que vous pourriez nous proposer?
Ah, une musique... ah oui, oh là là, il y en a tellement. Écoutez, je sais pas, ces dernières années, je dois vous dire, j'ai un chanteur dont la voix je pense maintenant, c'est Ezra Furman, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un chanteur de, je sais plus d'ailleurs de quelle partie des États-Unis il vient, maintenant j'ai un trou. Quand j'ai pas mes notes, je suis perdu. mais j'adore sa voix un peu écorchée, c'est un peu une sorte de, entre Lou Reed et Leonard Cohen, quoi. Enfin, il y a une voix qui m'a toujours bouleversé. Si vous trouvez une chanson de Ezra Furman,
eh bien, on découvre ça ensemble et on vous souhaite bienvenue dans la Nièvre, à la Charité sur Loire, donc pour cette conversation qui a lieu demain à 14h30 à côté de Maud Berthomé, de Frédéric Lemaître. Bienvenue dans la Nièvre, Mishka Sayas. Merci beaucoup.
Merci
à vous. Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop rock. La Charité sur Loire vous accueille pour ce festival aux quatre coins du mot jusqu'à dimanche. Je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau rendez-vous. Bye! See the blackboard so bad. You know I love you so bad. Like the kids skipping class in the bathrooms, sneaking cigarettes underneath the football bleachers, baby, so bad. You know I love you so bad. Like the kids growing up to be criminals, tearing pages out the back of the hymnals, but love knows. Transcend it, loved you, baby, so bad.
You know I love you so bad.